Tendance Ouest.
Tendance Ouest.
Écoutez les chroniques spirituelles de frère Paul Adrien.
Bienvenue dans cette chronique spirituelle. Je suis le frère Paul Adrien, je suis prêtre religieux dominicain. Et aujourd'hui, avant de parler de l'évangile du jour, allez, on va partir un peu du côté du folklore. Je vous parle des rois mages. Promis, à la fin de cette chronique, vous saurez tout sur tout sur les rois mages. Commençons par les trois rois mages. J'ai dit que je commencerai par les anecdotes, donc ils étaient trois. C'est pas dans la Bible, ça vous vient d'Origène, qui a été ensuite repris dans la tradition médiévale. Mais comme on ne prête qu'aux riches, on a donné à ces trois noms-là, et même au pays d'où ils venaient, certaines significations. Par exemple, on dit que Melchior viendrait d'Europe, Gaspard d'Asie et Balthazar d'Afrique. Et derrière cette diversité, vous sentez bien en réalité tout le symbolisme qu'il y a derrière. Derrière ces trois pays, il y a les trois continents, et comme c'était à l'époque les trois seuls continents connus, dans la tête des gens, c'était l'humanité entière qui avait envoyé des ambassadeurs pour se prosterner aux pieds du roi. D'ailleurs, on leur donne aussi des couleurs, parfaitement. Melchior, généralement, on le représente en rouge, Gaspard en vert et Balthazar en bleu. Et ces trois couleurs, en fait, sont censées représenter les trois âges de l'homme. Melchior en rouge, c'est la jeunesse, Gaspard en vert, c'est la maturité, et Balthazar en bleu, c'est la vieillesse, qui vous représente les trois âges de la vie. La sagesse tout entière du monde entier, de toute la vie humaine, qui vient décidément se donner rendez-vous à Bethléem, là où est né Jésus. Mais c'est pas tout. Les rois mages, ils ont même leurs reliques à eux. On n'est déjà pas bien sûr qu'ils existaient, mais en tout cas, on est sûr qu'on a leurs reliques. Hein. C'est avec Hélène, sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin. Selon la légende, elle aurait découvert les reliques des rois mages à Saba, en Arabie. Saba, ici, c'est important parce que ça fait référence à un psaume qui dit « Les rois de Séba et de Saba viendront apporter leur offrande ». Et on attribuait ce psaume aux rois mages. Ce n'est donc pas tout à fait un hasard si on a découvert leurs reliques à Saba en Arabie. Donc, sainte Hélène les aurait ensuite ramenées à Constantinople, puis au IVe siècle, elles auraient été transférées à Milan en Italie, parce que Milan était une des très grandes villes de l'Empire romain. Puis de Milan, en 1164, l'empereur Frédéric Barberousse offre ses reliques à l'archevêque de Cologne qui s'appelait Reinald von Tessel et qui va les recevoir dans un grand reliquaire, on appelle le reliquaire des trois rois, qui pour le coup est un des chefs-d'œuvre, mais vraiment il est magnifique ce reliquaire, c'est un des chefs-d'œuvre de l'art du Moyen-Âge. Vous avez des armoiries, vous avez des pierres, c'est extraordinaire. Si jamais vous pouvez regarder sur Google, vous tapez reliquaire des trois rois Cologne, c'est un chef-d'œuvre. Ça vous montre les rois mages comme symbole de la piété et de l'adoration universelle pour Jésus. Et si un jour vous allez en Allemagne, faites-moi plaisir, allez à Köln, à Cologne, voir les reliques des rois mages. Ça a été tellement populaire et c'est encore tellement vénéré à Cologne que les reliques sont même parvenues à se frayer un chemin jusque dans les armoiries de la ville. Les rois mages, alors tout le monde connaît leurs prénoms, Melchior, Gaspard, Balthazar. Melchior, ça viendrait d'une langue sémite qui signifierait « roi de lumière » ou « mon roi est lumière ». Gaspard, lui, c'est d'origine persane ou indienne, probablement tiré, on pense, de Kansbar qui signifie « maître du trésor ». Et Balthazar, lui, vient du babylonien qui signifie « Dieu protège le roi ». Pour le coup, Balthazar, ça, c'est attesté. Melchior, un petit peu moins, mais c'est quand même très crédible. Gaspard, c'est quand même plus douteux. Sauf que, d'où viennent ces prénoms? On le dira dans un instant dans le commentaire de l'évangile du jour, mais ça vient pas de la Bible. En fait, ça vient d'un évangile apocryphe. Un évangile qui a été traduit, qui a été écrit, autour du 6e siècle, qu'on appelle l'évangile arménien de l'enfance. Qui ensuite, ça c'est le plaisir de traverser à travers les âges et à travers les pays, qui ensuite a été traduit en latin, en gaule, avec un livre qui s'appelle « L'Excerpta Latina Barbari ». L'Excerpta Latina Barbari, c'est une collection de textes tellement mal écrits qu'on a dit que ça devait être un barbare qui l'avait écrit, d'où ce nom de « Excerpta Latina Barbari ». C'est une œuvre qui contient des chronologies et des histoires orientales et qui mentionne les traditions autour des rois mages. Là, je vous ai parlé de leurs prénoms, mais il y aura encore tellement de choses à dire qu'on n'aurait pas le temps, mais ça vous aura déjà fait rentrer dans le folklore lié autour des rois mages. Et maintenant que vous savez tout sur les rois mages, je vous propose de passer à la lecture de l'évangile du jour, puis à son commentaire, et cette fois-ci, on regardera d'un point de vue archéologique d'un peu plus près si ces fameux rois mages ont vraiment existé ou pas. Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui, ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Je vous propose aujourd'hui de partir sur les traces d'un des mystères les plus captivants de la Bible, les rois mages. Des personnages mythiques, bien connus de nos galettes des rois, de nos films, et il y a même des jeux vidéo. Généralement, on les voit plutôt comme des légendes, des symboles, mais est-ce qu'ils ont vraiment existé? Et je pense que, de temps en temps, c'est bien aussi d'aborder la Bible d'un point de vue, j'allais dire, archéologique pour voir si, derrière les contes, il n'y aurait pas, par hasard, un substrat historique. Peut-être que ça donnera encore plus de poids à l'évangile que vous venez d'entendre. Alors, notre enquête va commencer avec ce que nous venons d'entendre, évangile selon saint Matthieu, chapitre 2, verset 1, « Et voici que des mages venus d'Orient se présentèrent à Jérusalem. » En grec, « mage », on dit « magoi », un terme souvent associé à des astrologues ou des magiciens douteux dans l'Empire romain. Mais là, ils viennent de l'Est. On ne dit pas exactement d'où en Est, mais probablement de la Perse. Et ça, ça change tout. Parce que là-bas, en Perse, il y a des mages spécialisés dans des rites, les rites du zoroastrisme, la religion officielle de l'Empire perse. Et nos mages, alors, ne sont pas de simples prêtres. Ils jouent un rôle clé dans la science, l'astronomie et même la politique. Pour comprendre comment ces mages perses pourraient être liés aux rois mages de la Bible, il faut peut-être remonter un petit peu avant, en moins 539. Alors c'est vrai que ça fait un peu loin, mais à cette époque, vous avez le grand roi perse, Cyrus le Grand, qui envahit Babylone. Babylone où étaient capturés les Juifs en exil depuis des décennies. Cyrus le Grand les libère et parmi ces Juifs qu'il a libérés à Babylone, il y avait des nobles, des érudits qui avaient fini par gravir les échelons de l'administration de l'Empire. Et donc, il y avait des magoi, des mages juifs. Par exemple, il y en a même dans la Bible. Daniel, celui dont on parle précisément dans le livre de Daniel. Tiens, un de ses surnoms, c'est même Balthazar. C'est un nom, ça vous dit sûrement quelque chose quand on l'applique au roi mage, ça. Bon, et le rapprochement entre la culture perse et la foi juive ne s'arrête pas là. Parce que, par exemple, vous avez de nombreux concepts de la foi juive, comme le jugement dernier, la résurrection, l'attente d'un sauveur. Tout ça, ça trouve des parallèles frappants dans le zoroastrisme. Les mages zoroastriens, par exemple, montaient chaque année en haut des montagnes pour scruter les étoiles à la recherche d'un signe, d'une étoile qui annoncerait un sauveur. Oui, parfaitement, vous m'avez bien entendu. Il y avait des mages zoroastriens qui montaient chaque année en haut des montagnes pour scruter des étoiles à la recherche de l'annonce d'un sauveur. Est-ce qu'il y avait alors des juifs, des mages? Ça, il y en avait. Mais est-ce qu'ils ont été influencés par cette pratique zoroastrienne qui consiste à scruter les étoiles? Ben, peut-être bien, parce que dans la Bible, vous avez un livre qui s'appelle le Livre des Nombres. Et dans le Livre des Nombres, il y a quelqu'un qu'on appelle Balaam, on appelle ça même la fameuse prophétie de Balaam, qui prophétise qu'un jour, un astre se levera de Jacob. Est-ce que c'est cette prophétie-là que les rois mages suivaient? Eh bien, très probablement que cette prophétie de Balaam était connue à l'époque en Perse et que très probablement il y avait des mages juifs qui, influencés par les pratiques zoroastriennes, avaient pris au pied de la lettre cette prophétie biblique de Balaam. Alors, légende ou réalité? Ben, en tout cas, peut-être que les rois mages ne sont pas que des personnages symboliques, mais bien des figures inspirées d'une tradition profonde ancrée dans l'histoire et la spiritualité de l'époque perse. Ça donne matière à réflexion, ça. Et ben en plus, c'est pas fini. Alors, bien sûr, les rois mages n'étaient probablement pas trois. Ce chiffre de trois rois mages, c'est la tradition qui nous l'a transmis et il remonte à Origène, un théologien du 3e siècle. Mais en attendant, ça n'enlève rien au fait qu'il y avait des mages en Perse. Et puis il y a aussi cette fameuse étoile qu'ils suivirent, une lumière mystérieuse dans le ciel. Alors, vous vous en doutez, il s'agit probablement pas d'une étoile telle qu'on se l'imagine qui scintillerait au loin. En fait, nos mages étaient d'abord des astronomes et des astrologues chevronnés. Et donc en fait, probablement ce qu'ils cherchaient, c'était pas une étoile, mais un signe astrologique. Et ça change tout. Un signe astrologique, c'est pas forcément une étoile, ça peut être une conjonction de planètes qui apparaîtrait à un moment bien précis et qui pourrait être interprétée comme annonçant la naissance d'un roi en Palestine. Alors ça, c'est par exemple le lever d'une constellation astrologique, c'est quelque chose qui s'appelle le lever héliarque. Et ça a un détail qui a tout son sens parce que en grec, ça se dit une étoile à son levant, comme vous venez d'entendre dans le texte de l'Évangile. Et en fait, on a même réussi à reconstruire le ciel de l'époque. Il se trouve que en moins 6, l'année supposée de la naissance de Jésus selon les historiens, on a découvert une conjonction vraiment très puissante d'un point de vue astrologique. Donc, cette étoile, il y a peut-être un lien derrière. Alors, au total, qu'est-ce qu'il faut dire? Eh bien, que derrière ces rois mages, il y a quand même peut-être une réalité historique. Alors, ça n'empêche pas que pour nous, les rois mages sont des représentants d'abord de toute l'humanité. L'humanité qui vient s'agenouiller devant le roi des rois, devant Jésus-Christ, la lumière du monde. Mais en attendant, les évangiles sont souvent plus historiques qu'il n'y paraît. Eh bien voilà, c'est la fin de notre chronique spirituelle et je vous souhaite une bonne fête des rois mages. Vous penserez à moi en dégustant votre galette.
Retrouvez le frère Paul Adrien sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitch et Discord.